BW. Magazine Santé.
C'est très difficile de perdre un malade à cause de manque d'anesthésie, de réanimation et de surveillance en post-opératoire.
Et c'est encore plus difficile quand le décès fait suite à une erreur médicale ou au manque d'équipement. Nous irons en Centrafrique pour en parler. Dans ce magazine, on s'intéressera également à une étude d'un groupe de chercheurs. Ces derniers ont découvert qu'un nombre alarmant de personnes en Afrique pourraient prendre des médicaments, notamment ceux contre le cancer, qui ne contiennent pas les principes actifs nécessaires pour les soigner. Carole Assignon au micro, vous écoutez Capsule Santé. Bonjour à toutes et à tous. En Centrafrique comme ailleurs, les patients sont souvent confrontés à l'erreur médicale, mais à plusieurs autres difficultés, parmi lesquelles un mauvais diagnostic, une mauvaise prise en charge, un manque de plateau technique adéquat. Plus de détails avec Jean-Fernand Kouina, notre correspondant à Bangui.
Nous n'avons pas, en ce temps-là, pris la mesure de la chose, mais ça nous est arrivé dans la famille avec le décès de mon frère aîné.
Florence Ndouba réside à Bangui. Elle raconte ce qu'elle considère comme une erreur médicale qui a conduit au décès de son frère.
Le 3 avril dernier, où il s'était rendu personnellement accompagné de sa petite fille dans l'unité d'ORL pour une histoire d'arrêt de poisson qu'il a prise à la gorge, il s'était rendu là-bas en consultation. Donc il a été vu par le médecin qui lui avait prescrit une radiographie. Qu'il est allé dans la formation sanitaire outillée de la radio en question pour le faire. Et quand il a fait la radio, il est reparti vers l'unité prescriptrice. Le médecin a vu et lui a dit qu'il ne peut régler son problème de gêne là que par un passage au bloc opératoire.
Mais la suite est fatale pour son frère et pour Florence. Il y a eu une erreur médicale faute d'analyse préopératoire.
Et pour nous, c'était vraiment une erreur médicale. Nous nous sommes dit que certainement qu'il y avait eu overdose d'anesthésie ou qu'il n'y avait pas un bilan préopératoire. De fait, ils l'ont pris comme ça pour l'amener. Donc, est-ce que son organisme n'a pas toléré le produit anesthésique ou bien c'est par overdose qu'ils ont donner la mort à mon frère.
L'État, dans une certaine mesure, tente de s'attaquer au phénomène. Mais son sous-investissement dans le secteur de santé rend son approche incompréhensible. Par exemple, le fait de fermer temporairement ou auditer les services s'est avéré faible et insignifiant. Docteur Pierre Somsé est ministre de la Santé publique.
Ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de crise. J'ai été amené à plusieurs reprises à fermer les bords, à fermer des maternités, etc. Et ça procède de la même cause. Et donc, de ce fait-là, nous en avons profité pour faire le point sur la situation de tous les hôpitaux. On a également arrêté des solutions d'ordre général qui portent sur tous les hôpitaux. Dans chaque hôpital, en plus du directeur et son équipe, le chef du personnel, la gestion de gestion, il y a également un comité médical qui est présidé par un cadre médical de rang magistral. Ce système n'a pas fonctionné. Et c'est le cas dans tous les hôpitaux. Parce que la question, vous avez dit, mais pourquoi ? On se rend compte de ça maintenant. C'est le système qui n'a pas fonctionné. Donc il y a eu un problème de gouvernance. On s'est rendu compte aussi que donc il y a ce fossé entre les techniciens et l'administration, qui, bien entendu, se traduit par des manquements techniques et professionnels dans tous les hôpitaux.
Seulement, ces manquements techniques et professionnels peuvent s'avérer fatales pour les patients. Dans tous les cas, la mort d'un malade pour cause d'erreur médicale ou de manque d'équipement est une source de souffrance psychologique pour le praticien de la santé. Docteur Tibus Anselme Yalfondor, qui a perdu 2 malades après une intervention chirurgicale, en témoigne.
C'est difficile. C'est très difficile de perdre un malade à cause de manque d'équipement, d'anesthésie, de réanimation et de surveillance en post-opératoire. C'est une peine parce que quand un malade meurt, on ne voit pas autre chose que le chirurgien qui l'a opéré. alors que le chirurgien ayant bien fait son travail et que d'autres facteurs qui ne sont pas liés à la chirurgie viennent causer la mort d'un patient, c'est une peine terrible. Malheureusement, c'est que nous décrions toujours les conditions dans lesquelles nous travaillons et rien n'a changé jusqu'à là.
Dans ce contexte, la justice intervient parfois pour situer la responsabilité. Maître Esther Issapa a plaidé le dossier d'une infirmière anesthésiste poursuivie en justice pour erreur médicale. Elle explique la complexité de jugement d'une erreur médicale.
Pour prouver l'erreur médicale, il faut faire intervenir des experts de la santé pour expertiser non seulement le corps, mais également le processus, le protocole qui a été utilisé par le médecin ou par l'anesthésiste qui l'a aidé à travailler ce jour. Vous devez aussi expertiser tout ça. Donc, tout ce qui s'est passé ce jour au bloc doit être expertisé par les experts qui seront réquisitionnés ou recrutés pour pouvoir déposer leur rapport d'expertise. Ces rapports d'expertise, lorsqu'ils sont déposés, si l'anesthésiste estime ou bien si l'infirmier ou l'agent de santé estime que ces rapports ne sont pas fiables, il peut demander toujours une contre-expertise.
Il est vrai que l'erreur étant inhérente à tout corps de métier, en matière de santé, elle peut coûter la vie et reste un phénomène sensible qui appelle à la transparence, même si les procédures judiciaires et autres sanctions disciplinaires ne ramèneront pas à la vie la victime décédée ou encore réparera les dommages subis. L'évoquer peut apporter une valeur ajoutée du point de vue scientifique pour sauver des vies. Jean-Fernand Kouena, Abangui pour la Deutsche Welle.
Le bon diagnostic pour sauver des vies et le bon remède également pour retrouver la santé. Dans certains pays africains, un nombre alarmant de personnes pourraient prendre des médicaments, notamment contre le cancer, qui ne contiennent pas les principes actifs nécessaires pour soigner leur maladie. Un groupe de recherche américain et panafricain a publié récemment ses conclusions dans The Lancet Global Health à ce sujet. Les chercheurs ont recueilli des informations sur les dosages de certains médicaments auprès d'hôpitaux et pharmacies en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Cameroun. Et c'est à cette étude qu'on va s'intéresser maintenant.
DW.
Près de 200, c'est le nombre de produits que les chercheurs ont testés. Environ 17% d'entre eux, soit à peu près 1 sur 6, présentaient des teneurs en principes actifs incorrects, y compris des produits utilisés pour lutter, par exemple, contre le cancer. Les patients qui reçoivent des doses insuffisantes de ces composants pourraient voir leur tumeur continuer à croître, voire s'étendre. Des cas similaires d'antibiotiques, d'antipaludéens et de médicaments antituberculeux de qualité inférieure ont été signalés dans le passé. Mais c'est la première fois qu'une étude de ce type révèle des niveaux élevés de médicaments anticancéreux falsifiés ou défectueux mis en circulation. Maria Lieberman, chercheuse principale de l'enquête, explique.
The cancer medications are...
Les médicaments anticancéreux sont difficiles à manipuler et à analyser parce qu'ils sont très toxiques et de nombreux laboratoires ne veulent pas le faire. Il s'agit d'une sorte de problème central pour les pays subsahariens où nous avons travaillé. Même si plusieurs de ces pays disposent d'excellents laboratoires, ils n'ont pas les installations qui leur permettraient d'atteindre les objectifs fixés. Ils ne disposent pas encore des installations nécessaires pour manipuler en toute sécurité les médicaments chimiques. Thérapeutiques. Ils n'ont donc pas vraiment la capacité d'analyser ces produits.
Dans ce contexte, il faut s'attaquer aux causes, mais ce n'est pas simple car les produits de mauvaise qualité peuvent avoir de nombreuses causes. Il peut s'agir de défauts dans le processus de fabrication ou d'une dégradation du produit due à de mauvaises conditions de stockage. Mais certains médicaments sont également contrefaits, ce qui accroît le risque de divergence entre ce qui figure sur l'étiquette du produit et le médicament réel qu'il contient. Selon Maria Lieberman, si on ne peut pas tester, on ne peut pas réglementer. Les traitements anticancéreux ne sont toutefois pas les seuls concernés. Sachiko Ozawa a contribué à l'enquête sur les médicaments anticancéreux et a étudié séparément d'autres cas de médicaments défectueux.
Dans les pays à revenus élevés, la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus sûre. Les fabricants sont contrôlés, les produits doivent passer par des processus réglementaires très stricts pour obtenir l'autorisation d'être vendus dans ces pays. Il y a une chaîne très claire des produits qui passent d'un pays à l'autre, où il y a un meilleur suivi et où il est plus difficile de pénétrer dans cette chaîne d'approvisionnement fermée.
Selon l'experte, pour la communauté, il y a également des pertes économiques en termes de ressources gaspillées. Les pays peuvent donc dépenser beaucoup d'argent pour des médicaments qui ne seront pas efficaces.
Il y a des risques économiques, mais aussi des risques plus importants en termes de santé. Cela pourrait conduire à l'échec du traitement, à des réactions indésirables, à la progression de la maladie. Il existe également un problème de résistance aux médicaments. Si vous obtenez des niveaux inférieurs de médicaments, à long terme, ce médicament peut ne plus être utile à la communauté. Il y a également des pertes économiques en termes de gaspillage de ressources. Les pays peuvent donc dépenser beaucoup d'argent pour des médicaments qui ne seront pas efficaces.
L'OMS se dit préoccupée par les conclusions de l'enquête. L'OMS qui a également réitéré son appel permanent aux pays pour qu'ils améliorent leur cadre réglementaire afin de prévenir les incidents liés aux médicaments de qualité inférieure et falsifiés, notamment dans le cadre des programmes de lutte contre le cancer. Et c'est déjà la fin de Capsule Santé. Merci à Mathieu Ward-Agius pour le sujet sur la qualité des médicaments. Et merci à vous pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission. Take my advice. Reach out your hand and don't think twice. And pick up that phone. Just make the call, you're not alone. Call for help when you need a friend. Call for help when you're down again. You call for help every now and then. You need some help. You call for help when you're feeling blue. You call for help and I'll pull you through. You call for help.